La maîtresse, elle demande hein, qu'est-ce que tu es en train de dessiner ? Et la petite fille lui répondit : je dessine Dieu. Alors la maîtresse est un peu stupéfaite, elle lui dit, personne ne sait à quoi ressemble le Dieu. Et puis l'enfant, là, son dessin des yeux, il regarda par-dessus son épaule son institutrice et il lui répondit avec aplomb : dans une minute, vous le saurez. C'est une petite histoire pour dire deux choses. Il vaut mieux pas contredire un enfant. Et puis, aussi, la Bible nous donne une image de Dieu que, bien sûr, on n'est pas capable de dessiner. Et d'ailleurs, il ne nous le recommande pas. Mais une image qui s'inscrit dans nos cœurs. Et c'est ce que je vous invite à faire en ouvrant nos Bibles. Et on lira Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46. Dieu n'est pas Dieu, et c'est pour cela que je l'appelle Dieu. Alors c'est une drôle de réflexion. Je peux dire, ma femme n'est pas ma femme, et c'est pour cela que je peux l'appeler ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils ne l'écrivent pas. Quand vous voyez un texte juif écrit en français, il est marqué un grand D, c'est tout. Ou l'anagramme, c'est-à-dire les consonnes. Hein, donc on a écrit ensuite en mettant des voyelles Jéhovah ou Yahvé selon les traditions. Le Seigneur nous dit à travers la bouche d'Ésaïe que nos pensées ne sont pas ses pensées. On n'a pas les mêmes pensées que Dieu. La Bible nous dit que rien n'est comparable à Dieu. Rien. On n'a aucun moyen de dire, voilà, Dieu, il est comme ça. Dieu, il est comme ça. Non, aucun moyen. Dieu est tout-puissant. La Bible nous le dit. Et cette toute-puissance redoutable peut même parfois poser question. Les gens se disent, mais si Dieu est tout-puissant, et on l'entend souvent lorsqu'on veut partager notre foi, ce monde ne serait pas aussi terrible que cela. Et il ne laisserait pas faire toutes ces guerres et ces mauvaises choses, ces génocides. Toutefois, Dieu se manifeste pleinement dans son amour. Et il a choisi de se manifester pleinement dans son amour pour se faire connaître personnellement. Dieu est tout-puissant dans la nature. Mais personnellement, si on veut le connaître, il faut connaître son amour. Dans Matthieu, chapitre 26, c'est l'histoire, on dit, de sa passion dans le jardin. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon père, si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et au revoir, elle éprouva encore endormie, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, sur la passion de Jésus, dans ce jardin, mais je vous souhaiterais partager avec vous un aspect de ce texte. Comment Jésus a affronté la bataille de la volonté entre ce que lui désirait et ce que son Père désirait à ce moment-là. Et ce que j'entends par là, c'est comment, quand nous savons ce que nous devrions faire ou que nous ne devrions pas faire, comment le mettre en action, comment obéir ou comment renoncer. L'apôtre Paul le dit de cette façon en Romains, chapitre 7, verset 15, et puis plus loin au verset 19. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je fais. Verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais du mal que je ne veux pas. En d'autres termes, pourquoi mes décisions ne se transforment-elles pas en actions? Vous savez ce dont je parle, n'est-ce pas? Je ne suis pas tout seul. Si, Marc est ici, si. Non, je crois qu'il faut être dans la lutte. Et nous sommes dans la lutte. Notre Seigneur a été dans la lutte. C'est toute la différence entre ce que je voudrais être, et je parle là du potentiel que Dieu a mis dans mon cœur, que nous connaissons. Et il suffit de regarder la vie de Jésus, et puis comment j'apparais en réalité. Pas aux autres, mais à moi-même et à Dieu. Tous ces combats quotidiens entre notre volonté et la mise en œuvre, ces petites challenge de tous les jours, du genre je vais me lever tôt tous les matins pour prier et j'y arrive pas, je vais veiller une heure de plus pour prier le soir et je m'endors comme Pierre et les deux autres disciples, je vais renoncer à ces pensées, à ces inquiétudes, mais je me laisse toujours emporter par elles, ou encore je dois faire ce régime pour ma santé mais je continue à prendre 10 kilos. Je voudrais m'arrêter de boire, je voudrais m'arrêter de fumer, mais je retombe à chaque fois dans l'alcool ou le tabac. Je veux que mon regard soit pur et qu'en aucun cas je le livre encore à ces images malsaines, mais voilà, ça me reprend. Qu'y a-t-il vraiment au fond de mon cœur? Un des fondamentaux, et il y a 3 ans, Étienne nous avait fait une exhortation là-dessus qui m'a marqué. C'est de réaliser que tout au fond de mon cœur, tout au fond de mon cœur, il y a Dieu. Parce que je lui appartiens. Tout au fond de mon cœur, si je vais voir tout au fond de mon cœur, si vous allez voir tout au fond de vos cœurs, si vous lui appartenez, il y a Dieu. Car quand je regarde au fond de mon cœur, ben c'est sa volonté que j'y vois. C'est sa volonté que j'ai envie de faire, mais que je n'arrive pas toujours à faire. Mais c'est ça. Et ça me réconforte, parce que quand je regarde ça, je sais, à ce moment-là, que malgré mes défauts, je lui appartiens. Ça me rassure. Ça me rassure. Et on a besoin d'être rassuré, parfois, pour avancer. Si je regarde les désirs du plus profond de mon cœur, ben ces désirs sont purs. Car c'est le Seigneur qui y a fait son temple. Alors même si les parvis du temple de ma vie sont pleins de marchands, voleurs, menteurs, remplis de convoitises, Dieu continue à habiter dans le sein des saints de mon existence, de votre existence. Alors comment mettre en pratique la volonté? Pratiquement, comment ça se passe? Comment renoncer à la tentation? Comment renoncer à la haine? Comment manifester plus d'amour dans ma vie quotidienne, plus d'amour dans le service. Comment avoir une parole encourageante pour quelqu'un? Comment donner de mon temps pour quelqu'un d'autre? Comment détourner les yeux de mon nombril? Il y a une petite histoire qui est racontée dans ce livre qui parle, s'il y avait un péché à désigner, on dit l'orgueil pour Adam et Ève, on en a parlé ce matin un petit peu, eh bien c'est que à un moment donné, ils se virent nus. Adam et Ève, si vous avez déjà réfléchi, vous n'avez pas de nombril. Ah oui, ils étaient créés. Mais à ce moment-là, ils ont commencé à contempler leur nombril. À ce moment-là, ils ont commencé à contempler leur nombril. Et c'est bien ça le problème. C'est lorsqu'on se regarde toujours individuellement ses propres intérêts. Moi, mes petites choses. Et ce sont des petites choses, mais notre vie est faite de petites choses. Et il y a pourtant des combats qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Des moments où nous nous trouvons à la croisée de chemin et il ne faut pas passer à côté. Où nos actions auront des conséquences, peut-être terribles, à long terme, parfois irrémédiables, sur notre vie entière et sur la vie d'autres personnes. C'est des moments comme ça qu'a vécu Jésus à Gethsémani. Après le repas de la Pâque, il se rend avec ses disciples au jardin pour prier, car il sait qu'il doit prendre une décision. Porter la croix et accepter le sacrifice ou pas. Et l'action qui résultera de sa décision aura des conséquences, non seulement pour son temps à lui, mais il aura des conséquences cosmiques pour tous les âges, pour ce passé, pour ce futur, jusqu'à nous et après, de la création du monde, jusque lorsque le Seigneur viendra nous chercher. Quand cette terre disparaîtra. On voit dans notre texte le visage de Jésus contre terre, alors que les Juifs priaient plutôt debout et les mains levées au ciel, lui est là, allongé par terre. Le visage contre terre rempli de tristesse et d'effroi. Et l'évangile de Luc nous dit qu'il suit des grumeaux de sang. Il est à l'agonie presque. Et personne ne voudrait faire face à la crucifixion. À la douleur qu'on se la représente, ça doit être terrible d'être crucifié. Mais Jésus, ce qu'il appelle la coupe, est d'un tout autre ressort. Cette coupe, c'est toute la colère de Dieu contre le péché des hommes. C'est toute la colère de Dieu contre les meurtres. De Caïn contre son frère Abel, en passant par toutes les guerres, les exécutions, les génocides, ceux des camps de la mort du Rwanda, et tous ceux à venir. Voilà la coupe que Jésus va boire. Mais aussi, ce sont ses enfants violés et tués. Et il y a encore toute la masse de mensonges, de vols, de faux témoignages, de pensées perverses, et toute l'indifférence aussi à la souffrance des autres, le manque d'amour, à l'égoïsme. Il y a aussi dans cette coupe tous ceux auxquels j'ai participé, moi. C'est cela la coupe que va voir le Christ dans le jardin de Gethsémani. Et la souffrance auquel Jésus doit faire face n'est pas seulement dû au fait qu'il sera abandonné par son peuple, par ses amis et même trahi par l'un d'eux, mais parce qu'il va subir la colère de Dieu à notre place. Et probablement, moi je n'arrive pas personnellement à comprendre, je mésestime la grandeur du sacrifice du Christ, parce que ça dépasse ce que je peux comprendre. Mais ce qu'on mésestime trop souvent, c'est que Jésus-Christ a eu le choix. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus aurait pu dire non. Et en cela, il était pleinement homme. Ce choix qu'a dû faire Jésus, c'est tout l'objet de sa passion dans le jardin. Et il semble que, effectivement, Jésus aurait pu dire non. Il aurait pu choisir une autre voie, s'il y en avait eu une autre. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et le consentement de Jésus-Christ était absolument nécessaire pour le sacrifice. Jésus a donné sa vie volontairement pour toi, pour moi, afin que nous ne mourions pas, mais que nous ayons la vie éternelle avec Dieu. Et de même, Dieu a besoin de notre consentement. Il a besoin de notre consentement pour agir dans chacun des aspects de nos vies. Il y a une angoisse qu'on a avec Mariana, et quand on, tout parent a assez d'angoisse pour ses enfants, c'est que de savoir que son enfant va dire oui à Dieu. C'est ma seule inquiétude, je dirais, c'est ma seule, la réelle inquiétude, légitime, que mon enfant dira oui à Dieu un jour. Et pourquoi ça m'angoisse? Ça ne devrait pas m'angoisser. Parce que j'ai donné ma fille à Dieu. Tout ce qu'on n'a pas donné à Dieu nous angoisse. On a peur de le perdre, on a peur que ça se perde. Il faut, je crois, tout donner au Seigneur. Si c'est vos finances qui vous angoissent, donnez-les à Dieu. Il va s'en charger. Si c'est d'être seul qui vous angoisse, donnez votre solitude au Seigneur. Il va s'en charger. Mais voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus fait face à la même faiblesse que nous, car bien que fils de Dieu, il était aussi pleinement homme, soumis aux mêmes contraintes du corps, aux mêmes tentations, à la même faiblesse du corps. Entendez corps, et là, sans chair et esprit. Comment Jésus a pu ramener tout son corps, tout son esprit, à pouvoir accepter la volonté de Dieu dans sa vie, à faire que son amour soit plus fort que la souffrance à venir. En marchant dans le jardin de Gethsémané sur le mont des Oliviers, il y a 2 semaines, il y a une inscription qui, quand on descend du mont des Oliviers, du mont des Oliviers, on descend vers le jardin, et il y a une inscription, et c'est ce qui m'a inspiré ce texte, Matthieu 26, 40 à 41. Nous avons lu le texte, et voici un petit commentaire qui était écrit juste en dessous des cristaux. Le oui, Père, que Jésus prononça en une totale adhésion de sa volonté, lui fit traverser la plus profonde nuit de la tentation et de souffrance, et le mena à la victoire. Ainsi donc, les nuits que nous traversons mèneront elles aussi à la victoire, dans la mesure où nous dirons oui en nous abandonnant à la volonté de Dieu. S'abandonner. Et c'est tout le propos de Alexandre Jolien. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques... je sais pourquoi à cause de Mathias, mais le handicap me touche, que ce soit physique ou psychique, ça me touche toujours. Alexandre Jolien a une infirmité motrice cérébrale, et depuis, il a été en institut de l'âge de 3 ans jusqu'à 17 ans. Mais cet homme-là, il est plus handicapé physiquement que Mathias, hein, il a des spasmes, etc., il a des épilepsies aussi. Mais à l'instar de Mathias, lui, il a des capacités intellectuelles qui sont intactes. Et même, je crois qu'il a su développer. Et il est aussi philosophe. Et il a écrit ce petit traité de l'abandon. C'est ça qui m'a frappé. L'abandon. Je vais juste vous lire un petit passage qu'il a écrit. Quant à l'institut, on me conseillait de m'abandonner. J'y voyais une forme de maltraitance. Beaucoup d'éducateurs me disaient « il faut accepter la vie, il faut lâcher prise ». De nos jours, il existe beaucoup de livres sur le lâcher prise, sur l'acceptation. Cela me paraît presque trop exigeant. À l'institut, en tout cas, je considérais maltraitant de nous mettre de nouvelles exigences sur les épaules quand la vie nous en imposait déjà bien assez. Aujourd'hui, je me propose de tout lâcher, vraiment tout, comme dans les toilettes lorsqu'il faut tirer deux fois la chasse d'eau par moment. Il faut même lâcher le lâcher-prise. Il exprime le fait que la première chose qu'il faut abandonner, c'est le désir de devenir quelqu'un d'autre. C'est bien ça la tentation dans le désert. C'est pourquoi il est exprimé, et ce à quoi le diable lui demandait de renoncer. Il était Dieu, toutes ses prérogatives, il pouvait les avoir, les anges qui viennent, il pouvait l'amour du Père, il était Dieu, mais il était venu sur terre pour une autre mission, pour être pleinement homme aussi. Que peut faire un renard pour ne pas être un renard? Que puis-je faire pour être quelqu'un d'autre que celui que je suis actuellement? Rien. 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 Mais du matin au soir, nous essayons d'être quelqu'un d'autre. Et ce qui accroît la souffrance et crée le manque, c'est la comparaison. Et quand on est handicapé, on a physique, dans notre société, on a des raisons de se comparer. Et c'est ce que j'aime dans le handicap, c'est qu'il y a une exaltation d'autre chose. J'y vois, dans les personnes handicapées, c'est comme un aveugle qui a développé son ouïe. Et on dit, mais comment il fait pour ce qui a développé ses sens? Ben dans le handicap, c'est pareil. Il y a des choses du psychique qui sont développées et qui se disent, mais, oh Seigneur, merci. Il n'y a pas que le physique. Il y a autre chose dans cette existence. Mes yeux sont brouillés, je regarde mal les gens. Je regarde mal ma propre existence. Jésus, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, nous dit Philippiens au chapitre 2, Paul au Philippiens au chapitre 2. Mais se dépouiller, c'est pas facile de tout lâcher, de s'abandonner quand même. Ça se fait progressivement. C'est un travail. Alors, que fait Jésus? Il s'entoure de compagnons de prière pour ce moment-là. Et on voit souvent Jésus prier seul. Mais là, il demande l'aide de trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Bizarrement, trois disciples qui ont manifesté beaucoup d'orgueil. Pierre dit, moi je te suivrai jusqu'à la mort, juste avant. Et puis Jacques et Jean qui disent, à travers leur maman, mais ils se disputaient pour ça, qui est-ce qui sera le premier dans le royaume? Et la mère de Jacques et Jean dit, Jésus, est-ce que l'un pourrait être assis à ta droite et l'autre à ta gauche? Voilà ceux qui entourent Jésus, cette nuit-là. Et Jésus leur a demandé s'ils seraient capables de boire la coupe. Je ne sais pas si vous vous souvenez au fils de Zébédée. Et il dit, oui, on sera capables. Et Jésus dit à ce moment-là, oui, c'est vrai que vous allez la boire. C'est vrai que vous allez boire cette coupe. Vous aussi. Cette coupe, vous allez la boire. Une coupe de souffrance. Et la tradition dit qu'ils sont, en tout cas pour l'un, morts, on le sait, morts exécutés par le propre peuple qu'ils appartenaient. Et pour Jean, il est mort de sa belle mort, mais probablement. Mais en exil, en exil. Jésus s'entoure d'amis, et puis il est très honnête avec eux. Il ne leur dit pas, bon, voyez comme je suis, non, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez avec moi et veillez avec moi. Ma tristesse et mon angoisse me submergent tellement que je me sens mourir. Voilà ce que dit Jésus. Restez avec moi pour me soutenir dans l'épreuve que je traverse. Jésus se montre vulnérable à ses amis. Il ne cache pas ses luttes. Il ne cache pas sa peine. Quand en retournant vers ses disciples, il les trouve assoupis, il dit, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Une heure. Même ses plus proches disciples l'ont abandonné. Luc nous dit qu'ils se sont assoupis de tristesse, tant leur désarroi devant la souffrance de leur maître était grand. Comprenez pas. Mais ce qui est important de relever, c'est que nous aussi, on a besoin de compagnons. On n'avance pas tout seul. Le Seigneur nous a demandé d'avoir des compagnons, des gens avec qui nous pouvons prier, être entièrement honnête, se livrer tel que nous sommes, parler de nos difficultés, de nos péchés, et demander de prier avec nous. Des amis qui sont témoins de nos vies, de nos vies intérieures, qui sont capables de nous encourager, de nous reprendre, de prier pour nous et avec nous. Et Jacques nous y encourage, au chapitre 5, versets 16, 17, jusqu'à 19. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Qui appelleras-tu quand tu seras dans le désarroi? Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un? Dans cette assemblée ou ailleurs? À quelqu'un qui pourrait prier avec vous? Peut-être pas qu'une personne, mais deux. Peut-être. Si tu t'es laissé avoir par le péché, auquel tu avais pourtant renoncé, qui vas-tu appeler quand tu as une décision difficile à prendre? Il semble que Dieu veut utiliser l'autre pour être un soutien pour nous. Car c'est au travers de la communion d'amour entre les hommes et des femmes, que Dieu construit son royaume. La victoire est dans la communion des âmes. Et puis, deuxièmement, Jésus va développer verset 41. Jésus dit à ses disciples endormis, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il est possible de désirer de tout son cœur faire une bonne chose, mais d'être incapable de le faire. Et Pierre est un bon exemple, parce qu'il est plein d'enthousiasme quand il dit « J'irai jusqu'à la mort ». Mais l'enthousiasme ne suffit pas à accomplir les bonnes choses devant l'épreuve. Ton corps est si faible, dit le Seigneur, qu'il est incapable de suivre les nobles aspirations de ton cœur. Pourtant, notre faible nature humaine est capable d'être entraînée. Et c'est l'exemple que Jésus nous montre à Gethsémani. Pourquoi Jésus doit prier 3 fois? Une fois, ça ne suffit pas. Pourtant, dans le claquement de doigts, il ressuscite à mort. Il prie qu'une fois. Il dit, va au grabataire, prends ton lit et marche. Et il se lève, et il part. Il n'est pas insisté 10 fois. Allez, lève-toi, lève-toi. C'est marqué dans la Bible. Lève-toi. Non, une fois. Mais là, pour lui, il prie 3 fois. 3 fois, c'est pas un chiffre anodin. 3. 3, c'est un chiffre qui montre bien une certaine perfection. On parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit. 3. Il y a quelque chose, une démarche, c'est une continuité, c'est quelque chose qui est continu, c'est quelque chose qui se travaille. Et Jésus travaille cette prière. Et à chaque fois, dans cette prière, il est victorieux. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et c'est peut-être s'abandonner, c'est tous les jours. Non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas comme je veux, mais comme tu veux, Seigneur. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. 3 fois il fut tenté dans le désert aussi. Et 3 fois il résista, et le diable a fui jusqu'à un autre moment, nous dit la parole. Ce moment-là. Il faut faire la différence entre la personnalité et le caractère. Le caractère, c'est la personne que je deviens au travers de l'épreuve. Je développe mon caractère en remportant des victoires sur les mauvaises habitudes ou en perdant. Paul en parle dans Romains chapitre 7. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est la grâce qui nous en rend capables. Capables de changer. Je peux être aujourd'hui celui que Dieu veut que je sois. Nos petites vertus personnelles fuient devant la grâce de Dieu. Et pour reprendre une phrase de Max Donner. Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous souffrirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous devons prier aussi trois fois. Père, Fils et Saint-Esprit. Le développement du caractère se fait au travers de la vie de l'Esprit. Il est 100% initié par l'Esprit et 100% achevé dans notre vie par la grâce de Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Et développer son caractère, c'est développer le caractère de Dieu en nous. Que les désirs de Dieu deviennent nos désirs, que sa volonté devienne notre volonté. Et cela ne veut pas dire que nous ne participons pas déjà, parce qu'elle est là. La paix et la joie sont déjà là dans nos cœurs. Parce que Dieu a fait son temple dans nos cœurs. Il faut juste s'abandonner et les laisser s'exprimer. Si je veux avoir la force de résister à la tentation de faire face à l'adversité quand je suis triste, de faire ce que je sais être la chose bien à faire quand je n'ai plus la force, c'est par l'entraînement de la prière que je peux gagner. Si Jésus en a eu besoin, moi je dois encore en avoir plus besoin. Luc nous dit que Jésus, comme à son habitude, se rendit au Jordan. Jésus avait l'habitude de choisir un endroit isolé pour prier. Et parfois, on le voit prier toute la nuit. On ne revêt pas le caractère et les sentiments de Jésus-Christ du jour au lendemain, mais dans une vie de persévérance, dans la prière, dans la communion fraternelle, et avec la mise en œuvre de la grâce que Dieu a opérée dans nos vies. Restez fixés sur votre appel. Jésus appelle Dieu son Père. Et Marc, chapitre 14, 36, nous rappelle comment Jésus appelait son Père. Abba, Père. On retrouve cette expression trois fois dans le Nouveau Testament. Abba, Père. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Pourquoi non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Galates chapitre 4. Lorsque le temps était accompli, Dieu envoyait son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Romains chapitre 8, 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et toutefois, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et je crois que c'est de cette souffrance dont je parle. Ce combat, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Le cœur sincère d'un fils qui crie Abba, Papa, est due au don de l'esprit. Mais si, comme enfant, je dis « mon père », lui, comme père, a déjà dit depuis longtemps « mon enfant ». Si Dieu n'est pas encore un père ou un papa pour vous, vous êtes déjà ses enfants. Un commentateur disait sur ce passage que pleurer après un père absent est une démonstration d'amour aussi forte que de se réjouir de sa présence. Je voudrais juste terminer par quelques versets de Romains. Le Seigneur qui nous fait juste lire les derniers versets. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour le témoignage qu'elle rend de ta vie, Seigneur, Jésus-Christ. De ta vie parmi les hommes. De tes combats. De tes douleurs. Du renoncement. Et Seigneur, c'est à ce même renoncement que tu nous appelles. À renoncer à nos propres projets pour embrasser les tiens de notre existence, Seigneur. À renoncer à nos propres désirs pour recevoir les tiens, Seigneur, qui sont bien meilleurs. À renoncer à nous comparer pour être pleinement ce que tu as voulu que nous soyons, Seigneur. Avec peut-être nos handicaps physiques, psychique, intellectuel, mais tu as permis que nous soyons comme cela, Seigneur. Merci pour ce que nous sommes. Merci pour ce que tu as fait de moi. Seigneur, je te prie pour toute notre assemblée, pour que nous puissions nous encourager les uns les autres à laisser vivre cette paix, cette joie et cet amour que tu as mis dans nos cœurs, parce que tu y es. Merci pour le salut de nos âmes, qui est garanti par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, et par ta résurrection. Amen.